Radio Kapi. Oh, Kapi. Le journal Belinda Bosuma.
La reprise de la coopération militaire RDC Belgique. Téné, un navire de la marine belge, a accosté hier à Boma au Congo central. Cette coopération a été rompue il y a environ 2 ans sur fond de crise diplomatique entre les deux pays. Conflit intercommunautaire dans les hauts plateaux d'Ouvira, de Fizi et de Mwenga au sud Kivu. Les communautés ethniques de ces territoires condamnent les faits et déplorent tous les messages de haine répandus dans les réseaux sociaux. Une rencontre de paix a été organisée hier à ce sujet à Ouvira. En invité, nous recevons Sena Boudiou, présidente du réseau des femmes de l'unité police de la MONUSCO. Elle nous parle du prix de la meilleure femme policière de l'ONU, prix qui lui a été décerné récemment à New York. Madame, Messieurs, bonjour. Ce journal part du Congo central avec l'accostage hier à Boma du navire de la marine belge Godetia. Ceci marque la reprise de la coopération militaire entre la Belgique et la RDC. Ce navire fait escale au port de cette ville jusque demain. Deux officiers de la force navale congolaise vont monter à bord pour y effectuer un stage en mer d'environ une semaine. L'ambassadeur de Belgique en RDC et le maire de Boma ont accueilli ce navire. Témoin de l'événement, Nana Plurich Mambou.
Le navire A96 Godetia a accosté à 12h pile au port maritime de Boma où il a reçu les honneurs militaires de la marine congolaise. Le ministre de la Défense nationale s'est fait représenter à cette cérémonie par le général-major Michel Chora Mabondani, commandant de la 12e région militaire. Tandis que Marie-Josée Nyongo Swami, maire de la ville de Boma, représentait le gouverneur intérimaire du Congo central. Avant d'atteindre Boma, ce géant Godetia a fait escale au Togo et au Bénin où il a embarqué 5 Togolais et 10 Béninois des forces navales de ces deux pays. Des militaires de la force navale congolaise vont s'ajouter à leurs compagnons d'armée venus d'Afrique de l'Ouest pour un renforcement de leurs capacités dans les domaines marins. Outre les aspects liés à la formation, ces géants Godetia a aussi apporté des kits médicaux. Ces kits déjà déchargés sont constitués notamment des lits, matelas, fauteuils roulants. Un don de Benelux qui sera partagé dans toute la province. L'ambassadeur du Royaume de la Belgique et le maire de Boma ont salué la relance de la coopération militaire entre la Belgique et la RDC, rompue il y a environ 2 ans sur fond des crises diplomatiques. Matadi, Nana Plurich Mambou, Radio Okapi.
Pendant ce temps, l'instabilité sécuritaire dans l'est de la RDC demeure une préoccupation du gouvernement congolais et de la MONUSCO, cela malgré les efforts de stabilisation qui sont constamment consentis. Constat relevé par le représentant spécial adjoint chargé des opérations, François Grignon l'a fait savoir mercredi à la conférence hebdomadaire des Nations Unies. Le numéro 2 de la MONUSCO a annoncé par la même occasion la tournée qu'effectue depuis hier au Nord Kivu, la chef de la MONUSCO, pour renforcer les efforts face à cette crise de protection des civils. François Grignon, dans ses propos recueillis par Bernard Nyangui.
Des progrès importants ont été faits depuis plusieurs années sur la restauration de l'autorité de l'État sur l'ensemble du territoire de la République. Et aujourd'hui, seulement 12 de ces 135 territoires restent affectés, notamment en Ituri, au Nord Kivu et au Sud Kivu, par des violences armées. Ce qui représente pour nous une grande source d'inquiétude. Le Nord Kivu connaît aujourd'hui la principale crise de protection du pays. Pour y faire face, les FARDC viennent de lancer des opérations militaires pour éradiquer la menace EDF dans le Grand Nord. Mais la situation dans le Petit Nord est également extrêmement inquiétante. 53% de toutes les violations de droits de l'homme sur le territoire de la République ont eu lieu cette année dans le Petit Nord. La représentante spéciale du secrétaire général, Mme Zurugi, est arrivée il y a quelques minutes à Goma pour une visite de plusieurs jours dans le Petit Nord, comme indiqué, et nous allons ensemble évaluer nos opérations et mener des consultations avec les autorités provinciales afin de renforcer nos efforts face à ces crises de protection majeures pour la résoudre.
Entre-temps, à Kalemie, le contingent indonésien a remis mardi au chef du bureau de la MONUSCO des armes et des munitions récoltées par ses casques bleus auprès des groupes armés. La cérémonie s'est déroulée à la base du bataillon indonésien situé à l'aéroport de Kainda, Expedi Mwambamubi. Reportage.
Un mortier 60 mm, une mitrailleuse automatique, 39 fusils AK-47, 2 fusils de chasse calibre 12, 5 bombes, 39 chargeurs, une grenade. Le commandant du bataillon indonésien présente cet arsenal au chef de bureau entouré des chefs de section de la MONUSCO. Il y a également des armes traditionnelles telles que des arcs et flèches. c'est le fruit des activités civilo-militaires de sensibilisation menées depuis une année par le bataillon indonésien auprès des groupes armés. Le chef de bureau AI réceptionne ses armes et munitions. Il les remet à son tour à la section DDR avant d'envoyer ce message aux groupes armés. Léonidas Kindiye, chef de bureau AI.
Un message à ces groupes armés, je les invite à penser à leur avenir et aussi à la situation de leurs membres de famille. Parce que ce n'est pas avec une arme que tu vas construire une école, que tu vas amener les humanitaires à venir construire les écoles, les centres de santé. Ce n'est pas avec une arme ou une armée que vous allez amener le gouvernement à construire des routes.
D'après une source, toutes ces armes récoltées seront détruites dans les jours à venir. Kalemi, Expédie Mwambamoubi, Radio Okapi.
Je vous le disais en titre, au sud Kivu, les communautés ethniques des territoires d'Uvira, de Fizi et de Mwenga appellent à la cessation des hostilités dans les hauts plateaux de leur territoire. Les représentants de ces communautés l'ont déclaré hier à l'issue d'une rencontre de paix organisée à la MONUSCO par l'ONG Alerte Internationale. Ces communautés condamnent toutes les violences commises dans la zone et déplorent tous les messages de haine répandus à travers les réseaux sociaux. Je vous propose l'essentiel de leur communiqué final lu par un porte-parole de la rencontre. Propos recueillis par Fiston Goma.
Nous invitons les membres de toutes les communautés habitant la zone à résister à toutes sortes de manipulations politiques en dénonçant tout acte de violence, quel que soit son auteur, à cultiver l'esprit de solidarité, d'hospitalité, de pardon, de réconciliation et d'acceptation mutuelle en vue de rétablir la paix. Demandons aux membres de la diaspora congolaise de la zone de cesser tout acte de nature à attiser la haine tribale en privilégiant l'élan des solidarités allant dans le sens de la mobilisation de l'assistance humanitaire aux groupes armés locaux, d'arrêter immédiatement les hostilités, de déposer les armes et de s'abstenir à tout acte de violence et c'est des solidarités avec les groupes armés étrangers au profit d'une démobilisation dans le respect des dispositions du gouvernement de la République relatives au programme DDR.
Dans l'actualité aussi, cette grève sèche déclenchée hier par les communicateurs de la sous-coordination de riposte contre Ebola de Butembo, c'est à l'issue d'une réunion d'évaluation de leur préavis de 72 heures au cours desquelles ils observaient un service minimum. Ces agents réclament leur salaire de 3 mois. D'autres détails avec Florida Kahambo.
Ils sont au total une soixantaine. Ces agents membres de la sous-commission communication de la coordination des ripostes contre Ebola à Butembo disent suspendre toutes leurs activités jusqu'au paiement de leurs 3 mois d'arriéré de salaire par les gouvernements congolais.
Indignés par le retard de paiement délibéré de nos arriérés de plus de 3 mois et à constater qu'il n'y a pas d'avancée dans les démarches, décrétons une grève sèche à partir de ce mercredi 13 novembre 2019.
Radio Capi n'a pas réussi à joindre les coordonnateurs de la riposte à Butembo qui est en mission de service. Son intérimaire s'est réservé de tout commentaire. Alors, quel est le rôle joué par ces communicateurs dans les activités des ripostes contre Ebola dans les 12 zones de santé que compte la sous-coordination de Butembo? L'un des grévistes explique.
Nous, la principale mission, c'est de faire comprendre à cette population les dangers liés à cette maladie. Et lorsqu'on balise les terrains comme ça, et là, d'autres équipes peuvent venir, comme par exemple la vaccination, pour que la population ne s'attaque pas à ces dernières. On élabore aussi les message clé à annoncer à la population, surtout la population qui est dans les fins fonds, là où par exemple il n'y a pas de radio, là où il n'y a pas de réseau téléphonique. On essaie un peu de leur donner les messages qu'il faut concernant la maladie à virus Ebola.
Butembo, Florida Kahambo, Radio Kapi.
Ici à Kinshasa, c'est enfin effectif. Les travaux de réhabilitation et construction de l'avenue Elengesa ont démarré. Exécutés par l'entreprise Adi Construction, les travaux s'articuleront en 2 phases. La première consiste en la réhabilitation de la première partie de l'avenue qui part du croisement avec l'avenue Kasavubu au niveau du marché Mariano jusqu'au pont aux abords de l'avenue Ngiringiri. Et la seconde concernera la construction d'une nouvelle route qui partira du pont jusqu'au niveau de l'arrêt armé sur la route bypass à Mont Gafula. Jacques-Yves Molima a visité les premiers travaux. Voici son reportage.
Cette route depuis 52 ans, 32 ans de Mobutu et 22 ans de Kabila. Personne ne s'est soucié de nous.
Eh bien oui, le désengorgement de la zone englobant les communes de Makala, Bumbu, Selembao, jusqu'à Mongafula ne pouvait que passer par l'avenue Elengessa. Longue de 6 km, l'avenue Elengessa tire son importance en permettant aux usagers à partir de l'avenue Kassavubu d'atteindre la maison communale de Mongafula sur bypass sans passer par université avec son célèbre rond-point Gaba. Pour les habitants du coin, c'est un motif de satisfaction.
Nous sommes dans la joie parce qu'enfin, ils ont songé à nous afin que Makala ait une artère asphaltée. Elle va jusqu'à bypass pour nous éviter les détours.
Divisée en deux, la première partie, comme le dit le chef de chantier, l'ingénieur Fiston Moukel, c'est la réhabilitation.
La réhabilitation consiste d'abord, il y a des sections ciblées que vous verrez que là, nous sommes en train d'excaver. Enlever ce qui existait et nous remplaçons maintenant les nouveaux matériaux.
Un travail qui se fera en deux mois. La seconde et la grande partie concernera toute la zone longtemps enclavée jusqu'à bypass. Là, les travaux de construction prendront 14 mois.
Justice poursuit des audiences publiques au procès des présumés meurtriers de l'administrateur gestionnaire du centre hospitalier Vidiana ici à Kinshasa. Hier, la haute cour militaire a visionné la vidéo du crime. Il était question de faire correspondre les déclarations des renseignants aux images de la scène mortelle du 30 octobre dernier. La cour continue les auditions des renseignants en vue d'être éclairée sur les circonstances du crime, les responsabilités engagées et le rôle de chaque prévenu ainsi que le type d'arme utilisée. À ce stade déjà, le ministère public désigne tous les prévenus comme étant responsables du meurtre de l'administrateur gestionnaire de Vidiana. Il affirme avoir des moyens pour démontrer l'implication de Dolly Makambo et ses co-détenus.
Actualité internationale.
Facebook a affirmé mercredi avoir supprimé plus de 5 milliards de faux comptes d'utilisateurs depuis le début de l'année contre 2,1 milliards l'an dernier à la même période. Dans son rapport biannuel sur la transparence, le géant des réseaux sociaux explique avoir amélioré ses capacités à détecter et bloquer les créations des comptes faux ou abusifs au point d'empêcher des millions de tentatives tous les jours. Rien que de janvier à mars, Facebook assure avoir supprimé 2,2 milliards de comptes, un record. Comme nous bloquons de plus en plus de faux comptes avant même qu'ils soient créés, nous en avons de moins en moins à désactiver et nos interventions ont diminué depuis le premier trimestre, remarque la firme de Menlo Park.
L'invité.
Il s'agit de Madame Seynabou Diouf, commandante de l'équipe chargée de la lutte contre les abus et l'exploitation sexuelle. Elle est également la présidente du réseau des femmes de l'unité police de la MONUSCO UNPOL. Seynabou Diouf parle du prix de la meilleure femme policière des Nations Unies qui lui a été décerné récemment à New York. Elle s'entretient avec Paul Matendo.
Madame Seynabou Diouf, bonjour.
Bonjour, Monsieur Paul.
Vous avez reçu le 5 novembre dernier le prix de la meilleure femme policière des Nations Unies pour l'année 2019. En quoi consiste ce prix?
Ce prix consiste à reconnaître le travail que des femmes font dans les missions de maintien de la paix au profit des populations et au profit aussi des composantes police dans lesquelles elles travaillent. Je pense que c'est un prix qui pousse les femmes à plus travailler, mais aussi à plus aider la communauté dans laquelle elles sont déployées pour les servir.
Quelles sont les activités que vous exercez et qui ont conduit à ce prix?
Je l'ai reçu à force de travail, comme je disais, à l'interne, dans la composante police de la MONUSCO, mais aussi à l'externe. À l'interne, je suis team leader SIA Task Force, je vais le dire dans un français plus commun. Il y a une équipe qui est chargée de veiller à ce que des violences sexuelles exercées par le personnel des Nations Unies sur les populations qu'on est censé protéger, ces violences sexuelles-là, il y a des textes qui les régissent, qui nous les interdisent. Il y a d'abord la politique tolérance zéro qui est instituée par le secrétaire général. Il y a aussi des résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies qui est l'instance suprême dans les Nations Unies qui nous l'interdisent. Mais il y a des mémorandums de la SRSJ, il y a aussi des directives de notre chef, le général Awale Abdou Nassir. Tout cela qui fait que c'est beaucoup de textes qu'il faut lire, mais qu'il faut exploiter et mettre en œuvre sur le terrain. Comment? En faisant comprendre à nos collègues qu'on est là pour servir la population congolaise, mais on n'est pas là pour les exploiter.
Vous dites que vous n'êtes pas là pour exploiter la population congolaise. Quelles sont les actions que vous menez au profit de la femme congolaise?
Au profit de la femme congolaise, c'est On ne reste pas sur place pour aider la femme. On est le plus souvent sur le terrain, à voir et à écouter. Comment est-ce qu'il faut faire pour soulager la femme congolaise? Comment est-ce qu'il faut faire pour l'aider à plus d'autonomisation? Comment est-ce qu'il faut faire pour alléger les travaux ménagers? Et dans ce sens, je vais vous citer quelques cas où on a beaucoup aidé les femmes. À Rutshuru, par exemple, nous avons aidé les femmes d'abord à emblaver 5 hectares. Ça a donné des résultats. Elles nous ont dit qu'elles avaient encore possibilité d'étendre à 2 hectares de plus. Oui, on les a équipées en matériel agricole, mais aussi en semences. Et maintenant, elles produisent. Il y a aussi que les jeunes filles de Rutshuru, victimes la plupart du temps de violences sexuelles, basées sur le genre, mais aussi victimes des conflits qui ont fui leur patelin pour avoir la paix un peu dans le Rutshuru, c'est des femmes qu'on a aidées à trouver un métier en leur fournissant du matériel d'apprentissage des métiers de la couture.
Est-ce que l'on sait exactement le nombre de femmes que vous avez soutenues jusque-là?
Pour le nombre de femmes qu'on a aidées, mais ça se chiffre à plus de 500. Quand je parle de Rutshuru, où il y avait plus de 800 victimes qui sont venues à nous demander de l'aide. Si à venir dans le Niragongo, où il y a 5 associations de femmes agricultrices, à venir dans les quartiers de Kahembe, Murara, Mugunga et dans le quartier de Virunga, où on a commencé nos activités et qu'on voudrait élargir, on a des femmes qu'on a aidées qui se chiffrent, un nombre qui se chiffre à plus de 500.
Comment ce travail que vous faites est-il jugé par la police nationale congolaise?
Par rapport à la PNC, mais nous entretenons de bons rapports, de rapports de partenariat, de rapports de collègues qui se trouvent dans une zone de conflit, qui ont de la connaissance en matière de police, qu'on respecte beaucoup, mais avec qui, durant nos colocations, on les écoute et on discute autour de questions essentielles qui tournent autour de la sécurité. Donc pour nos relations avec la police nationale congolaise, on dit que c'est des relations au beau fixe, c'est des relations entre partenaires qui se respectent, c'est des relations d'écoute mutuelle et de respect mutuel.
Madame Seynabou Diouf, merci.
Merci beaucoup.
La commandante de l'équipe chargée de la lutte contre les abus et exploitations sexuelles répondait aux questions de Paul Matindo. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi.